l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Catherine Oberlé, bonjour.
Bonjour Valérie.
Ravie de vous recevoir. Alors, petite présentation, vous êtes coach pour dirigeante, manager et entrepreneur. Au féminin, vous êtes auteur de « Dompter vos peurs et libérer votre féminin ». Vous vous êtes lancée aujourd'hui dans le podcast « Toutes des leaders » et vous recevez des invités qui parlent de leur parcours et de la façon dont elles se sont libérées d'un certain carcan, alors souvent mis en place par elles-mêmes. Ça, on y reviendra bien évidemment. Catherine Oberlé. Ça, c'est en Alsace, au Berlin, évidemment. Ma présentation est un peu succincte. Vous êtes coach. Mais encore, alors, votre parcours, alors parce que coach, c'est vrai qu'on a un peu de tendance à mettre ce mot générique à toutes les sauces. Qui êtes-vous, Catherine Oberlé?
Hola, vous avez combien de temps, là? Bon, je vais faire court, c'est que j'ai un premier parcours de vie dans lequel j'étais manager, puis créatrice d'entreprise. J'ai travaillé pour des grandes compagnies aériennes, puis j'ai monté une boîte de sous-traitance pour Air France, pour ne pas les citer.
Et ça s'est fait.
Ça s'est fait. Voilà, c'était une très, très belle expérience. Ça m'a permis de découvrir ce que c'était vraiment le management aussi et toutes les erreurs qu'on pouvait faire. Et à partir de là, en fait, je me suis dit non, mais ça, c'est pas possible. Un jour, il va falloir faire quelque chose vraiment. Et finalement, je l'ai fait beaucoup plus tard, hein, mais voilà, je le fais maintenant. C'est comment donner des pistes. Surtout, moi, je m'adresse prioritairement aux femmes parce que c'est vrai qu'il y a, une demande, il y a un besoin. Il y a surtout le besoin d'oser, de savoir prendre sa place ou d'oser prendre sa place, de se mettre en avant, de s'affirmer. Et donc, le podcast « Toutes des leaders », s'adresse à toutes les femmes, en fait. Parce que moi, je trouve que toutes les femmes ont cette énergie de la leaduse. Hein. Mais je m'adresse un petit peu plus à celles qui en ont besoin dans le domaine professionnel, parce que c'est vraiment une énergie sur laquelle on peut s'appuyer pour se révéler et pour révéler son potentiel.
C'est quelque chose, c'est parti d'un constat dans votre vie professionnelle précédente, ce management en direction des femmes qui est sexiste, en fait, on va dire le mot.
Alors, moi, c'est assez particulier parce qu'en fait, quand je faisais du management, j'encadrais essentiellement des hommes. J'étais dans des métiers très masculins, très techniques, hein, donc j'encadrais des hommes. Et c'est lors de ma formation pour devenir, parce que je suis psychothérapeute aussi, donc pour devenir psychothérapeute et coach, qu'à un moment donné, j'ai eu comme un déclic, un insight, et je me suis dit, moi, je vais accompagner les femmes. Il y a tellement de choses à faire, c'est ça que je veux faire. Et c'est parti de là, et ça date d'il y a 20 ans.
Donner confiance aux femmes, quelle que soit leur profession, leur voie professionnelle. Pourquoi les femmes, elles n'osent pas, en fait?
Oh là là.
Vaste sujet.
Vaste sujet. Et quand j'en parle, souvent, on me dit, ou alors quand j'en parle à des hommes, on me dit, ah ouais, non, mais t'exagères un petit peu, peut-être, non. Je dis, mais non, déjà, à la base, et ça, j'en parle dans mes podcasts, c'est que nous n'avons pas la même éducation. Déjà, les parents ne posent pas le même regard sur une petite fille ou sur un petit garçon.
Une éducation genrée.
Exactement. Donc, le petit garçon va lui dire « Allez, vas-y, t'es un mec, ose, fonce. » Et puis, une petite fille, on va lui dire « Non, mais attention. » Moi, je me souviens, elle me disait « Non, tu vas tomber, tu vas t'abîmer les genoux. Et ça ne sera pas joli plus tard quand tu mettras des robes. » Des trucs de dingue. Enfin, on est éduqués quand même, et encore maintenant. Moi, je le vois au quotidien avec les personnes que j'accompagne, même les jeunes femmes, encore les trentenaires et tout, qui me parlent d'elles, de leur éducation. Et pour certaines, je me dis, waouh, ça n'a pas beaucoup évolué.
Les femmes, enfin, les petites filles à la dinette, aux poupées, les hommes sur les chantiers avec les camions et les trains, ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui tend, j'allais dire, à s'amenuiser et pas à disparaître, j'entends bien. Mais une petite fille qui désire jouer aux petites voitures, il n'y a plus de frein à ça.
Non, il n'y a plus de frein théoriquement. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans l'inconscient collectif.
D'ancré dans ce vieux patriarcat.
Voilà. Voilà, et c'est vraiment, nous en tant que psy, on parle d'inconscient collectif parce qu'il y a quelque chose, c'est comme une mémoire comme ça qui plane un peu au-dessus de nous, dans laquelle sont contenues des informations du type, voilà, une petite fille ou une femme, ce qu'elle a le droit de faire, et puis un homme, ce qu'il a le droit de faire. Et donc, nous, les femmes, en fait, on a à lutter contre ça. Et c'est vraiment faire bouger les lignes, repousser les limites, et c'est au quotidien parce qu'il y a... Il y a ce regard qu'on a eu quand on était petite, donc le regard de la famille, puis il y a le regard de la société. Et finalement, on s'est construite avec tous ces regards-là sur nous. Donc, il s'agit aussi de se libérer de ces regards-là.
Se libérer des regards et d'un carcan, alors je le disais en introduction, qu'on a mis soi-même en place souvent. La difficulté, c'est de faire sauter des limites qu'on a soi-même mises en place.
Oui, en fait, quand vous dites on les a soi-même mises en place, oui, mais avec ce qu'on a reçu.
Avec l'éducation.
Voilà, avec l'éducation, la culture aussi. Hein. Donc, on s'est construite d'après ces règles-là, parce qu'on ne connaissait que ça. Donc, il a bien fallu qu'on arrive à se construire. Donc, l'éducation reçue a fait qu'on a mis nos règles en place. Mais ces règles sont les mêmes que celles de nos parents, de la société dans laquelle on vit. Et en fait, le travail que je vais faire avec les femmes, c'est les aider à déconstruire ces règles-là, cette construction-là, pour se reconstruire d'après leurs propres règles.
Et pour ça, vous avez parlé de déconstruction. Alors, vous avez mis effectivement des podcasts en lien où des femmes vont raconter leur expérience, mais vous, de tête à tête avec chaque femme, de déconstruire, il y en a pour des heures et des heures de travail.
Voilà. Alors oui, ça se fait
sans se décourager.
Oui, bien sûr. Ça se fait. Alors quand il y a un travail profond à faire, quand il y a des traumas ou des histoires, quand on sent que la personne vraiment n'arrive pas à s'en sortir, qu'il y a quelque chose de très profond, ça va être de la thérapie. Et quand c'est quelque chose sur plutôt atteindre un objectif, arriver à libérer son potentiel, etc., on va être sur du coaching. Et c'est important de faire la différence entre les deux parce que ce n'est pas la même posture, ce n'est pas le même travail. Et donc, on n'a pas, en tant que client, ça ne va pas être la même demande aussi. Hein. Et si quelqu'un vient vers moi pour travailler en coaching, je vais faire du coaching, je ne vais pas faire de la thérapie et inversement. Donc, c'est vraiment important déjà de sentir quel est le besoin, quelle est la demande. Et à partir de là, oui, on va accompagner la personne. Alors, c'est vrai que la thérapie, ça peut durer longtemps, hein, ça peut durer des années. Le coaching, c'est plus rapide. D'ailleurs, on fixe un nombre de séances en général et puis on y va. C'est vraiment un objectif et une direction, un process qu'on va mettre en place aussi pour que la personne ait des prises de conscience et qu'elle puisse vraiment elle-même trouver ses propres ressources et mettre en place une vie. Souvent, actuellement, on parle d'une vie qui lui ressemble. C'est vaste aussi.
On parle également beaucoup, alors c'est un mot qui revient dans tous les articles qui sont liés aux femmes et à leur confiance en elles, etc. C'est le syndrome de l'imposteur. Et il s'avère que dans 70%, il concerne les femmes et leur carrière. Pourtant, autant diplômées que les hommes, hein, elles tendent même aujourd'hui à avoir plus de diplômes universitaires que les hommes. Ça, c'est un constat que vous faites également?
Oui, alors ça concerne beaucoup les femmes, mais ça concerne aussi les hommes. Il ne faut pas croire que c'est que féminin, sauf que peut-être les hommes le cachent un petit peu mieux ou en parlent moins. Donc, c'est vrai, et on le retrouve vraiment partout. Mais on s'aperçoit aussi que même les femmes, même si elles ont fait des grandes études, à un moment donné, parfois, elles sont rattrapées justement par la vie, par leurs désirs finalement. Et puis, ça bouge, cette énergie qu'elles ont pu mettre à un endroit, elles la perdent peut-être un petit peu ou l'objectif n'est plus le même.
Vous avez mis en place, on va revenir à la raison pour laquelle je vous ai invité aujourd'hui pour parler de ces podcasts pour redonner aux femmes leur super pouvoir. Comment est-ce qu'ils sont menés ces podcasts? Alors, c'est des interviews qui durent un petit temps, c'est une conversation qui s'installe avec des femmes qui font, qui sont là à titre d'exemple, qui ont mené elles leur combat pour prendre ce pouvoir.
Oui, alors j'ai fait un mix dans mon podcast, c'est-à-dire qu'il y a une fois par mois, j'ai une invitée, effectivement, et sinon, ce sont des petites capsules, comme c'est une fois par semaine, donc les trois autres sont des petites capsules de 10, 12, 15 minutes dans lesquelles je développe un sujet plus particulièrement, ça peut être justement le syndrome de l'imposteur. Ça peut être la peur de se montrer, de se rendre visible, puisqu'aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui est important pour les femmes, hein, surtout au niveau professionnel. C'est comment j'ose prendre ma place. Et prendre ma place, ça veut aussi dire me mettre en avant. Et me mettre en avant, ça veut dire aussi soit prendre la parole, soit me montrer en vidéo, soit parler sur un podcast, etc. Donc, il y a cette partie-là. Et puis, mes invités, oui. Alors, j'ai grand plaisir à choisir mes invités aussi selon un parcours de vie, selon le parcours qu'elles ont eu. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, les trois, j'en ai eu trois. Il y en a d'autres qui vont arriver encore. J'aime bien... Je trouve qu'on manque de rôle modèle actuellement, nous, en tant que femmes. Donc, à travers ces histoires de femmes, à travers leur audace, ce qu'elles ont osé faire, ben, c'est une façon de dire, ben, voyez, une autre vie est possible. Et si on a le courage, si on a vraiment la motivation de le faire, on peut faire, on peut choisir de vivre autrement.
Vous parlez d'audace, de courage, d'oser. Donc, ce n'est pas des vains mots aussi. Ce n'est pas quelque chose, effectivement, qui coule de source. C'est un combat à mener.
Oui, alors le mot combat, c'est un peu fort, mais quelque part, c'est ça. C'est en tout cas ne pas se laisser faire, ne pas se laisser enfermer dans ces fameux moules, ne pas se laisser enfermer par toutes ces règles qu'on nous a inculquées, en nous faisant croire peut-être parfois qu'autre chose n'était pas possible. Donc c'est un combat dans le sens de « je ne me laisserai pas faire ». Et je veux choisir ma vie et vivre peut-être une autre vie que ce qui était prévu pour moi. D'ailleurs, dans le dernier podcast, je parle des loyautés familiales, parce que ça, c'est incroyable comme sujet aussi. Hein. C'est comment, je donne l'exemple du fils du boulanger qui devient boulanger alors qu'il n'en a pas du tout envie, mais qu'il n'a pas osé s'affirmer et qui, au bout de quelques années, développe une allergie à la farine. Par exemple.
Hein. Incroyable, le corps qui parle.
Mais voilà, le corps qui parle, quand on n'a pas osé se positionner, et vous voyez, ça marche pour les hommes aussi, finalement. Il y a quelque chose où le corps va s'exprimer, où parfois peut y avoir des maladies ou d'autres choses moins sympas. Mais voilà, donc c'est important quand même d'être connecté à soi, hein, d'avoir conscience de ce qu'on veut, de qui on est aussi, et de ce qu'on a envie. De vivre, quelles expériences en fait on a envie de vivre dans cette vie-là.
Les femmes sont solidaires entre elles dans ce parcours à mener. Ou est-ce que, parce que souvent c'est l'image qui peut être donnée des femmes, il y a une concurrence qui est encore plus rude qu'envers entre les hommes.
Oui, alors il y a un mot qui revient à la mode en ce moment qui est le mot sororité.
Oui.
Alors, c'est vrai que moi, j'ai un petit peu de mal avec ce mot-là. Moi, je préfère parler de solidarité parce que il y a encore beaucoup de concurrence. Et il y en aura toujours, je pense, c'est propre à l'être humain. Donc, c'est vrai que les femmes, entre elles, ne sont pas tendres. D'ailleurs, le nombre de fois où j'ai entendu « Ah non, mais moi, travailler qu'avec des femmes, c'est pas possible. » Et moi, j'ai fait partie aussi des femmes qui disaient ça, d'ailleurs. Je pense que c'est difficile, mais c'est possible. Dans certaines situations, c'est possible. Et je pense que quand on est dans des situations difficiles, on va trouver cet élan de sororité. Mais quand tout va bien, ou quand il y a de l'ambition, ou quand il y a des postes à prendre, ou des places à prendre, là, ça sera peut-être un petit peu plus difficile de parler de sororité.
Aujourd'hui, ces prises de conscience des femmes qui ont du mal peut-être à trouver leur place, etc., est-ce que les hommes, il y a des hommes parmi les jeunes générations qui les accompagnent ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites ce constat qu'il y a des réelles prises de conscience des deux côtés, pas uniquement des femmes, mais des hommes et des jeunes hommes, ou peut-être des hommes plus âgés aussi, qui prennent les femmes par les mains et leur montrent également la voie à suivre ?
Oui, heureusement. Alors, il y a des hommes qui soutiennent les femmes de différentes manières. Moi, j'ai rencontré des hommes, par exemple, qui étaient papa, qui étaient père de jeunes femmes d'une vingtaine d'années, et qui me disaient, mais Catherine, moi, je ne suis pas comme les hommes que tu décris. Moi, je fais ça. J'ai trois filles à la maison, et voilà comment ça se passe. Et je trouve ça absolument génial. Et puis, il y a l'autre partie où moi, j'ai un fils qui a 24 ans.
Oui.
Et c'est vrai que... Il est à l'âge où il découvre ce que c'est aussi que d'être une femme. Il découvre, l'autre fois, il est venu me raconter, me dire mais ce qu'une amie à lui avait rapporté, c'était qu'elle n'osait pas sortir le soir après telle heure parce qu'il faisait nuit et parce qu'elle se sentait en danger. Et lui m'a raconté ça en me disant mais j'avais aucune notion de ce que ça pouvait être qu'être une femme.
Une vraie prise de conscience de la femme dans la société aujourd'hui, des dangers et de toutes les choses inhérentes à une condition de femme, tout
Exactement.
Simplement.
Exactement. Ce que ça a amené, simplement être femme, eh ben, ça nous mettait face à certains dangers, c'est vrai. Et ça, c'est difficile à expliquer à quelqu'un qui n'a pas du tout ces repères-là, ce cadre-là. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire, et notamment peut-être dans pour cette génération-là, enfin je l'espère, et de certains hommes voilà, qui comprennent, qui entendent, qui voient. Puis il y a aussi de la communication qui s'ouvre entre les hommes et les femmes. Hein. Mais en même temps, il y a aussi une difficulté à trouver sa place maintenant pour les hommes. Parce qu'après ce mouvement MeToo, etc., voilà.
C'est... Oui, puis le féminisme, on va dire très dur et excluant pour les hommes, ça fait avancer la cause des femmes ou pas forcément ?
Alors, ça fait avancer, alors ça dépend. Ça va faire avancer et en même temps, ça peut bloquer. Parce que certaines personnes, moi, c'est vrai que même quand je communique sur LinkedIn ou quoi, il y a certains hommes qui me disent « Non, mais Catherine, là, c'est un peu fort. Enfin, moi, je me reconnais pas dans ce que tu dis là. » Donc, il y a un truc de... Ils savent plus trop, quoi, les repères changent. Et cette agressivité, parfois, de certaines femmes, c'est vrai que ça leur fait peur. Et alors, c'est vrai qu'il faut faire bouger les choses, il faut parler, il faut dénoncer dans certains cas, il faut faire bouger, il faut sortir d'une sorte de torpeur. Mais c'est vrai que moi, j'ai un petit peu de mal quand c'est trop. Quand c'est trop, quand ça va trop loin, quand ça fait du mal aux autres aussi, parce que ça ne sert à rien, en fait, de répondre à la violence par de la violence. Donc, c'est vrai que moi, il y a certains mouvements, notamment le mouvement féminin à l'époque, on en parlait beaucoup. Moi, je n'étais pas du tout pour ce type de mouvement-là. Où on va chercher vraiment la violence, finalement. On va chercher à provoquer de la violence.
Vaste sujet. Oui, on l'a un petit peu effleuré ce matin. Malheureusement, notre temps imparti est passé. Évidemment, j'invite nos auditeurs, auditrices à écouter votre podcast. Vous avez un site particulier où vous êtes hébergé ?
Alors, c'est toutes des leaders, Catherine Oberlé, c'est sur Ocha, mais c'est sur toutes les plateformes, Apple Podcast, etc.
Merci en tous les cas de nous avoir amené à un début de réponse à ce qu'on se pose. Et puis, on voulait parler évidemment des leaders dans le milieu professionnel. On a compris du féminisme en général. On pourrait faire une série d'émissions. Et puis, je vous invite bien sûr à revenir pour continuer à vous exprimer sur ce sujet-là. Catherine Oberlé, merci infiniment.
Merci beaucoup.
L'invité de la rédaction.